Voici le journal de Christelle Robière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec la première tempête de l'automne et des trombes d'eau en Loire-Atlantique, 100 litres au mètre carré, mais l'alerte rouge a été levée il y a une heure en Loire-Atlantique. Les autres titres, Christelle?
L'Algérie rappelle son ambassadeur en France. Elle n'admet pas des propos tenus par Emmanuel Macron sur la réécriture officielle de l'histoire de ce pays et je cite l'expression de rente mémorielle. Des pavés, de la boue et des chutes, le Paris-Roubaix décalé à l'automne pour cause de Covid sera fidèle à son surnom, l'enfer du Nord. Et puis vous entendrez un couple qui vient de renouveler son serment au bout de 80 ans de mariage. Si, si.
L'invité ce matin à 8h20, ce sera la sociologue Anne Muxel. Elle vient d'écrire « L'autre à distance quand une pandémie touche à l'intime ».
France Inter.
Il pleut toujours, mais l'alerte rouge a été levée il y a une heure en Loire-Atlantique. Il est tombé près de 100 mm d'eau du côté de Nantes en une nuit seulement. C'est un record. On retrouve Florian Cazola de France Bleu Loire-Océan qui fait le point pour nous.
Et c'est à Nantes où les pluies ont été les plus impressionnantes. Il est tombé en une nuit l'équivalent de 32 jours de pluie pour un mois d'octobre. Une nuit, vous l'imaginez, qui n'a pas été de tout repos pour les secours. Plus d'une centaine d'interventions, principalement dans le sud de l'agglomération nantaise pour des inondations chez des particuliers. Ça déborde aussi au nord du périphérique nantais. Le Gèvre est sorti de son lit et l'eau inonde donc une partie de la route. Avec le vent qui a soufflé jusqu'à 100 km/h hier, il y a également beaucoup de chutes d'arbres à déplorer. Des routes coupées et environ un millier de foyers privés d'électricité au moins jusqu'à midi. La situation est quasiment la même. En Vendée, à Beauvoir-sur-Mer par exemple, juste à côté de Noirmoutier, il y a eu jusqu'à 80 cm d'eau dans certaines rues et quelques évacuations de personnes âgées.
Et la SNCF prévoit des perturbations en Loire-Atlantique jusqu'à 10h ce matin. 22 départements sont encore en vigilance orange, 15 dans le quart nord-ouest, les autres dans le sud-ouest, le centre-est, tandis qu'un épisode Cévenol est attendu dans le sud-est d'ici demain.
Là, ce n'est pas une tempête, mais un bon coup de froid diplomatique.
L'Algérie vient de rappeler son ambassadeur en France pour consultation. Emmanuel Macron a reçu cette semaine des descendants des protagonistes de la guerre d'Algérie et les propos qu'il leur a tenus, rapportés hier par le quotidien Le Monde, ont pour le moins déplu. Benjamin Illy.
Cet article n'a pas échappé aux médias locaux, ils l'ont largement repris. Macron au vitriol sur le système algérien, titré 24 heures Algérie, quand le site d'information en ligne Tout sur l'Algérie promet une crise ouverte dans les prochaines semaines. L'article en question dans le journal Le Monde décrit la rencontre jeudi dernier à l'Élysée entre Emmanuel Macron et un groupe de jeunes, des descendants de protagonistes de la guerre d'Algérie. Au cours de la discussion, le président français a estimé qu'après son indépendance, l'Algérie s'était construite sur une rente mémorielle. Je cite, il a évoqué une histoire officielle totalement réécrite qui repose sur une haine de la France. C'est dans ce contexte que l'Algérie décide de rappeler son ambassadeur en France, comme elle l'avait fait en 2020, alors que mercredi dernier, c'est l'ambassadeur de France à Alger qui a été convoqué par les autorités algériennes. Elles ont protesté formellement après la décision de Paris de réduire de moitié les visas accordés aux Algériens souhaitant se rendre en France.
Benjamin Illy, il envisageait de faire un massacre. Un jeune homme de 19 ans, originaire de Seine-Maritime, a été arrêté, mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Fasciné par le nazisme et l'ultra-violence, il voulait commettre une tuerie de masse dans son ancien lycée, ainsi que dans une mosquée, le 20 avril 2022, une date qui est aussi celle de la naissance d'Hitler. Nous y revenons dans le journal de 7h30 sur Inter. Lui, président, Yannick Jadot, le candidat écologiste, détaille les mesure phare de son programme dans le journal du dimanche. Son premier acte, s'il était à l'Élysée, serait de sortir de l'élevage industriel et de la malbouffe et de s'en prendre au lobby. Il souhaite aller vers un impôt sur la fortune climatique et lancer un plan d'investissement de 50 milliards d'euros par an pour les logements ou encore pour les services publics. Il fait en fait la synthèse des propositions des autres candidats qu'il a battus à la primaire. Le Covid, toujours en reflux dans l'Hexagone, moins de 5000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Dans les écoles, un nouveau protocole sanitaire moins contraignant sera expérimenté dans une dizaine de départements dès demain. En cas de Covid, tous les élèves d'une classe seront testés, mais seuls les positifs seront placés à l'isolement. La fermeture des classes ne sera plus systématique. En Israël, qui avait vacciné très rapidement sa population, on s'en souvient, dès le mois de janvier, on en est au troisième rappel de vaccin obligatoire. Et pour convaincre les réticents, le pass sanitaire sera lié à cette nouvelle dose. Les explications de Michel Paul à Jérusalem.
Près de 2 millions d'Israéliens privés de pass sanitaire
À partir de ce matin, le Taviaroc, la vignette verte, n'est désormais plus attribué ici qu'aux personnes ayant reçu une troisième dose du vaccin Pfizer, le seul administré en Israël, ou alors à ceux qui ont été doublement vaccinés il y a moins de 6 mois. Un passe sanitaire temporaire peut malgré tout être obtenu grâce à un test de dépistage du virus, un examen qui n'est plus gratuit, sauf pour les sujets non éligibles à la vaccination. La dose de rappel du vaccin est offerte à la population israélienne depuis le début du mois d'août. 38% des Israéliens en ont déjà bénéficié. Mais le nombre de récalcitrants à cette troisième dose reste important alors que la quatrième vague de l'épidémie semble toucher à sa fin. Conséquence de cette réforme du pass sanitaire en tout cas, une véritable ruée vers les centres de vaccination. Plus de 100 000 Israéliens en moins de 72 heures ont reçu leur troisième dose. Jérusalem, Michel Paul, RFI. Pour France Inter.
En sport, Christelle, l'enfer du Nord va encore une fois bien porter son nom aujourd'hui.
Hein. Oui, le Paris-Roubaix que les fans ont attendu quand même 903 jours à cause du Covid aura lieu tout à l'heure sous un ciel tourmenté. Un parcours plus boueux que d'habitude et pavé d'embûches car c'est la première fois que la course a lieu en octobre. Fanny Lechevestrier.
Vous l'avez peut-être constaté hier avec la course féminine. Un Paris-Roubaix en octobre, c'est d'abord tout un décor qui change où la végétation a repris ses droits, décrit le directeur de la course, Thierry Gouvenou.
On voit bien que le paysage est complètement différent, beaucoup plus vert. Il y a beaucoup plus de paysans dans les champs qui font leur récolte. Donc on a plus de risques de se retrouver sur un pavé où il y a de la boue, de la terre.
Il a donc fallu faire un gros travail pour rendre les 30 secteurs pavés du parcours praticables, pas trop glissants. Notamment la trouée d'Arenberg en jachère depuis 2 ans et demi. Mais cela, c'était avant que la météo s'invite à la fête. Le vent a soufflé en rafale hier, entraînant les feuilles mortes dans son sillage. La pluie n'a pas cessé de la nuit, transformant les pavés en patinoire boueuse, du jamais vu depuis 20 ans, faisant redouter le chaos au tenant du titre Philippe Gilbert.
J'arrive même pas à imaginer comment on peut faire sans tomber, ouais, ça va être vraiment la galère.
Mais si les coureurs en ont fait des cauchemars, les spectateurs eux s'en repaissent. Alain Deloye, directeur sportif chez Cofidis, parle déjà d'un enfer du Nord de légende.
Quelque chose qu'aucun coureur actuellement dans le peloton n'a connu. On part au front en fait. Bienvenue en enfer, ça va être pour moi un Paris-Roubaix de légende.
Avec pour grand favori, un spécialiste du cyclo-cross, Mathieu Van Der Poel.
Hier, la reine Elisabeth est entrée dans l'histoire de la course. La Britannique Elisabeth Lindsay Dainan a remporté la première épreuve féminine de l'histoire après une incroyable échappée de 82 km. Enfin, connaissez-vous les noces de chêne ?
Dites-nous.
Alors, les noces d'or sont devenues banales, celles de diamant un peu moins. Mais là, Denise et René viennent de renouveler leur serment devant Monsieur le maire à Nébian dans l'Hérault à l'occasion de leur 80 ans de mariage. Claire Moutarde a assisté aux nouvelles noces de ses mariés quasi centenaires.
Des applaudissements pour accueillir le couple de Beauve. René ne peut pas retenir ses larmes et Denise est magnifique dans sa robe à fleurs.
Prenez place, vous mettez là comme il y a 80 ans.
À l'époque, Denise, serveuse dans un café, n'avait pas eu les moyens de se payer une robe blanche. Cette fois, le couple a les honneurs d'un courrier de félicitations de Brigitte Macron. 80 ans d'engagement réciproque, salué aussi par le maire de Nébian, Francis Bardot.
Leur attachement et leur amour a vu passer énormément de choses. 2 ans avant, il y a ce Covid qui arrive. Encore une guerre à gagner sur l'âge. Tout le monde aimerait arriver à 99 ans.
Ce qui frappe d'ailleurs, c'est leur super forme, Denise.
C'est la chance, ça, d'avoir la santé. On n'est pas maladif, rien du tout.
J'ai des douleurs, moi, quand même.
Et 80 ans de souvenirs pour René.
C'est ce jour où on s'est rencontrés, déjà. On était jeunes, 19 ans. On n'avait pas d'argent. Il y a eu quelques heures, mais à partir du moment où il y a eu des filles, on n'a plus le droit de chercher autre chose que sa famille.
2 filles enseignantes, une immense fierté pour René qui a quitté l'école à 14 ans. 4 petits-enfants, 6 arrière-petits-enfants, dont Lana, pour qui l'histoire de mamie et pépé est un exemple.
C'est trop un rêve à réaliser, de jamais se séparer. Pour rester autant d'années ensemble, habiter encore ensemble à cet âge-là, faut s'aimer pour ça.
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est un reportage de France Bleu Hérault de Claire Moutarde.
Ça termine très bien ce journal. Il faut s'aimer pour ça, on vient d'entendre. C'était le journal de Christelle Rebière. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Jean-Michel Golinski, ça s'améliore sur le nord et sur l'ouest. Cela dit, ça se dégrade vers l'est ?
Exactement. Actuellement, il y a 22 départements en vigilance orange sur la France, 15 entre les Pays de la Loire, le Bassin parisien, l'Orne, la Haute-Normandie, également sur l'Oise. Sur cette zone, les pluies vont s'estomper en milieu de matinée. Donc, a priori, des conditions quand même meilleures qu'hier sur le parcours du Paris-Roubaix. Sur le centre-est et le sud-est, il y a 7 départements en orange, la Loire, le Rhône, pour des rafales supérieures à 100 km à l'heure en zone urbaine, le Gard, la Lozère et l'Ardèche, pour les fortes pluies cévenoles, se mêlant d'orages en cours d'après-midi. Enfin, les Bouches-du-Rhône et le Var en raison des fortes averses d'orages prévues à partir de la soirée. Dans l'ensemble, pluie et vent assez forts vont faire la une aujourd'hui de l'axe du Rhône au Grand Est, également sur le piémont pyrénéen où le vent pointe à plus de 140 km à l'heure sur les crêtes.
Jean-Michel Golinski, Météo France.